Donc, vous voyez, nous servons un Dieu qui est vivant et qui est toujours à l'œuvre. Et ce matin, je vais vous parler d'une petite histoire où nous allons voir l'intervention de Dieu. Et c'est important pour nous de rappeler à notre âme que notre Dieu est vivant. Il est vivant, il est toujours à l'œuvre. Et il y a de nombreuses histoires dans la Bible où nous voyons l'intervention de Dieu dans la vie des hommes. La Bible, c'est Dieu qui intervient dans la vie des hommes. Voilà, on voit Dieu, il intervient pour créer le ciel et la terre. On voit aussi Dieu intervenir pour créer l'homme, pour intervenir dans sa vie. Et ça, c'est important pour nous de rappeler à notre âme. Parfois, ce n'est pas toujours évident de nous dire que mais si Dieu est là, pourquoi tant de choses? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? C'est la question que beaucoup de gens se posent. Si Dieu existe, pourquoi la souffrance? Sauf que la souffrance, ce n'est pas Dieu qui est responsable de la souffrance. La souffrance, ce sont les conséquences du péché. L'absence de Dieu dans le cœur de l'homme engendre de la souffrance. Mais ce n'est pas Dieu qui crée la souffrance. Ce sont les conséquences du péché. Et c'est pour cela, Emmanuel disait dans sa prière, nous avons besoin de nous repentir, de revenir à Dieu. Parce que nous avons besoin d'un sauveur. Et sans plus tarder, je vais vous inviter à ouvrir votre Bible dans le livre de Jean, au chapitre 6. Ce texte nous montre l'action de Dieu. C'est l'histoire de la multiplication des pains, que vous connaissez tous. Dans cette histoire, Jésus nous enseigne des leçons importantes que je trouve. Et il y a quatre qui m'ont marqué et on va essayer de les trouver dans ce texte et de les appliquer à notre vie afin vraiment de voir Dieu, de demander à Dieu d'intervenir dans notre vie. Donc je vais essayer d'aller très vite pour voir qu'on puisse avoir un petit temps de prière aussi. Je pense que voilà, on a besoin de prier. Et ce texte nous dit, je vous le lis. Ah ouais, c'est là. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté du lac de Galilée, ou lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce que les gens voyaient les signes miraculeux qu'il faisait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête juive, était proche. Jésus leva les yeux et vit une grande foule venir vers lui. Il dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 pièces d'argent ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? Jésus dit, faites asseoir ces gens. Il y avait beaucoup d'herbes à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5 000 hommes. Jésus prit les pains, remercia Dieu et les distribua aux disciples qui les donnaient. À ceux qui étaient là, il leur distribua de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge. Après que tous eurent mangé, à la vue du signe miraculeux que Jésus avait fait, ces gens disaient, cet homme est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Cependant, Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne. Donc on va prier et après on va essayer. Oh purée. Vous pouvez supprimer purée. On va prier et on va retirer ces leçons, ces 4 leçons que j'ai pu remarquer dans ce texte. Seigneur, merci pour ta parole qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Que ton nom soit béni, merci de nous remplir de ton esprit pour l'œuvre à laquelle tu nous as appelés ce matin. Seigneur, merci d'enlever tout ce qui n'est pas de toi. Nous savons que seul ce qui vient de ton esprit construit ton église. Tout ce qui ne vient pas de toi ne construit pas l'église. Père, je prie vraiment qu'on puisse retenir que ce qui vient de toi. Au nom de Jésus, Amen. Donc ce petit texte nous dit, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous du pain pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Donc pourquoi, s'il sait ce qu'il va faire, pourquoi il pose cette question? Hein? Jésus dit, où achèterons-nous du pain pour nourrir toutes ces personnes? Et, mais il savait ce qu'il allait faire. Et en fait, en réfléchissant sur ce texte, la Bible nous dit, bon, la réponse est dans le texte, hein, mais il y a des réflexions sur le texte et les leçons qu'on peut tirer de cette conversation de Jésus et de l'intervention de Dieu dans cette multiplication des pains. Et cette question montre l'intérêt de Dieu pour nous, pour notre situation. Où achèterons-nous du pain pour nourrir ces gens? Bien que Jésus savait ce qu'il allait faire, ça montre que, ce qui amène le premier point, Dieu se soucie de nous. Dieu se soucie de nous. Ça, c'est une bonne nouvelle. Notre situation, ce que nous vivons, Dieu en est conscient. Il est pleinement conscient, il est tellement conscient de notre situation qu'il nous donne la force, des fois, qu'il nous donne la force de supporter ces situations qui parfois nous dépassent. Et il pose cette question, mais je pense que c'est une question qui doit être posée dans l'Église. Parfois, nous voyons nos frères, nous voyons nos sœurs, nous ne connaissons pas leur situation, mais la question est importante d'être posée. Est-ce que, en fait, que vivent ces gens? Où achèterons-nous du pain pour nourrir ces gens? Parfois, on voit des gens dans l'Église, on ne sait pas, ça fait peut-être 5 jours qu'ils n'ont pas mangé, 5 ans, ça fait un peu trop. Mais c'est une question où Jésus veut que l'Église ou la communauté s'intéresse au sort de son prochain. Parfois, il y a des gens qui vivent des situations très difficiles au milieu de nous. Nous ne sommes même pas conscients de cela. Pourquoi? Parce que, bon, je ne veux pas dire, c'est un peu, on est égoïste, oui, on l'est tous. Mais c'est des fois, on est centré sur nous. Et c'est important de se tourner vers l'autre. Savoir, je ne vais pas dire c'est quand la dernière fois que tu as mangé. Oui, on pourrait poser la question, c'est quand la dernière fois que tu as pris ton repas? Les gens arrivent, ils sont tous souriants, ils viennent écouter le Todd prêcher, hein, ils sont contents, ils disent Amen, mais il y en a qui repartent des fois qui n'ont rien à manger. Et ça, c'est important pour l'Église, la communauté, de savoir ce qui se passe. Aujourd'hui, nous voyons un mouvement en France des Gilets jaunes qui tente à s'estomper, mais en vérité, il y a une souffrance dans le pays. Trop longtemps, en fait, c'est une révolte contre les élites, parce que les gens souffrent. Et comme les gens, ils ne voient pas d'issue, ils ne voient pas d'alternative, bon, on est en France, on est un pays de révolution, donc on fait la révolution. Mais Jésus, il sait ce qu'il va faire, mais il pose quand même la question. Et c'est la question que nous devons poser. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que je peux faire pour que mon frère, pour que ma sœur se sente bien? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que mon frère, ma sœur puisse venir à l'Église? Des fois, on est prompt à juger. Bon, je ne parle pas de juger dans le sens condamné, mais à porter une appréciation. Parce que juger, c'est un mot polysémique qui veut dire aussi apprécier. Hein? Mais il y a aussi condamner. Mais nous ne sommes pas là pour condamner, mais on peut apprécier. Bon, des fois, nous sommes prompts à apprécier en disant, bon, il ne vient pas à l'Église parce qu'il n'est pas motivé, il n'a pas envie. Oui, des fois, les gens ne sont pas motivés. Mais la motivation, en fait, vient du fait que... Le manque de motivation vient du fait que les gens vivent une souffrance. Et que on ne s'intéresse pas suffisamment à eux. Bon, après, il faut aussi faire attention parce qu'il y a des gens qui nous font des chantages affectifs. Hein, qui, ouais, si tu ne fais pas, je... Non, en fait, voilà. Que Dieu nous donne du discernement aussi par rapport à ça. Mais pour être juste, nous devons nous intéresser au sort de nos frères. Prier avec, la Bible nous dit, prier de pleurer avec ceux qui pleurent. En fait, oui, c'est ça. Où achèterons-nous du pain? Dieu se soucie de nous. Et c'est important pour nous de comprendre que Dieu se soucie de nous. Et ne pas dire, ne pas se dire, oui, bon, Dieu, franchement, voilà, je comprends plus rien. Dieu, tu m'as abandonné. En fait, si Dieu nous avait abandonnés, on ne serait pas là. Le fait même qu'on soit là, qu'on continue à prier, à espérer, c'est une preuve que Dieu ne nous a pas abandonnés. Parce qu'il nous donne la force de continuer. On n'aurait pas la force de continuer. Et comme je disais, on voit venir les gens le dimanche à l'église, souriant, cependant, ils n'ont pas mangé depuis 5 jours. Parfois, nos frères et sœurs ont des difficultés. Et c'est aussi important pour l'église de savoir cela. Pas pour contrôler les gens, pas pour être intrusif, mais pour prier pour eux, pour mieux les soutenir. C'est pas c'est pas l'assistanat, non, c'est la communauté. On doit se soutenir. Mais pour soutenir, pour savoir prier pour quelqu'un, il faut le connaître. Et les gens ne vont pas se ouvrir leur cœur comme ça, en fait, s'ils ne nous connaissent pas. Il faut une relation. Et Dieu se soucie de nous. Et on le voit dans ce texte. Et il dit, pourquoi il pose la question? Il dit, voilà, le texte nous dit, c'est pour l'éprouver. Et lui, Dieu lui pose une question. La réponse est, ben, on n'a pas suffisamment d'argent. Pourquoi tu... Enfin, tu n'as pas besoin d'argent pour prier pour ton frère. Pourquoi tu n'ouvres pas plus ta maison à tes frères? Bon, Seigneur, ma maison n'est pas suffisamment grande. Ma maison n'est pas suffisamment... Enfin, j'en passe. X ou Y raison. Mais la Bible nous dit que c'était pour l'éprouver. Parfois, Dieu nous pose des questions et nous répondons en regardant à nous. Ah, oui. Seigneur, oui. Où achetons? On n'a pas d'argent. On va acheter une salle. Oui, il y a le projet de salle qui est en train de se parachever. Bon, on va acheter une salle. Bon, 600 000 euros, on n'a que 150 000. C'est compliqué. Hein, ça fait quoi 20%, 25% sur 600 000. C'est pas grand-chose. Non, on regarde à notre incapacité. Mais Dieu veut qu'on regarde à lui. Et vu la réponse de Philippe, hein, on voit André qui continue, il dit, bon, par contre, il y a un jeune garçon là dans la salle, dans la foule là, il a 5 pains et 2 poissons. Mais bon, vu la foule, c'est peu. C'est vraiment peu, voilà, on a un début d'une solution, mais vu le nombre, je pense qu'il faut peut-être trouver autre chose. Vous me suivez bien? Combien de fois on passe à côté de Dieu, en fait des interrogations de Dieu, on répond à côté. Est-ce que tu peux organiser? Ah ouais Seigneur, mais j'ai pas le temps. Oh, mais Seigneur, j'ai pas, un peu comme Moïse, va dire à ce peuple, ah non, mais je sais pas parler. Dieu lui dit, mais en fait, qui donne la bouche alors? C'est moi, non? Ouais. Ok, c'est bon, c'est toi qui donne. Mais je ne sais quand même pas parler. À un moment, Dieu se fâche. Vous connaissez l'histoire. Et il y a un début d'une solution, mais c'est peu. Sauf qu'il faut regarder à Dieu. Et pas à nous. Il y a un chant qui dit, non, pas à nous, mais à ton nom, à ton nom. Donne gloire. En fait, nous devons regarder à Dieu pour avoir la solution. Pas à notre portefeuille. Parce que nous sommes incapables. Mais Dieu, il est capable. Nous sommes limités. Mais Dieu, il est illimité. Aujourd'hui, bon, c'est une petite anecdote. Avant, on avait SFR qui avait lancé l'illimité. Hein, le début du téléphone. L'illimité, c'était de 20h à 6h du matin. Donc, tout le monde attendait 20h, tous ceux qui étaient chez SFR, pour pouvoir téléphoner à fond. Aujourd'hui, tout le monde a l'illimité. C'est une grande... Enfin, ceux qui naissent avec l'illimité, ils se disent « Waouh, c'est super !» Et moi, je me rappelle l'époque, on attendait tous 20h. Et on pouvait appeler sur tous les fixes, tous les portables. Et c'est SFR qui avait lancé ça. Mais on attendait. Et le week-end, c'était non-stop. On attendait 20h. Et le week-end, c'était non-stop. Même moment, J'ai une amie qui était chez SFR, et SFR lui a proposé de l'argent pour racheter le contrat. Parce que, bon, ils ont dû perdre de l'argent. Parce que les gens, ils se rendaient compte, en fait, les gens en France, ils aiment parler. 20 heures, boum, réseau saturé. Et le week-end, non-stop. Ça, en fait, nous sommes limités. Mais Dieu, il est limité, en fait. Ne regardons pas à nous, mais à Dieu. Un peu comme Ézéchiel. Ézéchiel, Dieu lui montre une vallée où il y a plein d'ossements. Et Dieu lui dit, enfin, vous voyez plein de squelettes, cadavres, en fait, des os desséchés. Et Dieu lui dit, mais Ézéchiel, est-ce que tu crois que ces ossements-là que tu as vus peuvent revenir à la vie? Ézéchiel, bon, il s'est peut-être dit, hein, bon, j'illustre un peu, il s'est peut-être dit, où est le piège? Bon, Seigneur, toi-même, tu sais. On va pas trop se mouiller, mais Seigneur, je sais que tu es capable. Toi, tu sais. Crois-tu? Seigneur, toi, tu sais si ces ossements peuvent revenir à la vie. Moi, en tout cas, ce que je vois là, je sais que, vu l'état de mes comptes, acheter un immeuble, non, je crois que là, si je me présente chez le banquier, il va me dire, bon, il va faire, parce que vous savez, c'est politique commerciale, on va vous recevoir, on vous salue bien. Après, quand on se retrouve en scolaire, on dit, mais lui, il a un souci. Il veut 600 000 euros, il n'a que 150 000. Et la banque, c'est la gestion des risques. T'as pas d'argent, on ne prête pas. Et Dieu nous demande de faire des trucs un peu fous. Bon, on peut nous prendre pour un fou, mais Dieu, sauf que lui, il n'est pas fou. C'est lui qui, l'or et l'argent lui appartiennent. Où achèterons-nous à manger? Seigneur, je sais pas, mais toi, tu es capable. Et dans cette histoire, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de monde. Beaucoup de monde dans la foule. Et Philippe. André y voit un jeune garçon qui a 5 pains et 2 poissons. Ce qui nous amène au deuxième point, l'Église, c'est une affaire de tous. Donc j'explique. Parmi la foule venue écouter, il y avait un jeune garçon qui avait amené son casse-croûte, hein, pour manger. Et face à cette difficulté que vont rencontrer les disciples, pas Jésus, parce que Jésus, il sait ce qu'il va faire. C'est problématique pour nous, mais pas pour Dieu. Mais André va voir un jeune garçon qui a amené son casse-croûte. Et dans cette réflexion que je me faisais, en fait, c'est comme si Dieu me disait, mais en fait, l'Église, c'est une affaire de tous. Parfois, on a tendance à attendre des solutions des disciples, des responsables, des pasteurs. Et en France, bon, j'illustre, en France, ça nous parle plus. Quand rien ne va en France, qu'est-ce qu'on fait? On se tourne vers le gouvernement. Ça, c'est la France. Bon, c'est notre pays, on l'aime. Hein? Mais bon, quand chez nous, on dit, bon, une expression en Guadeloupe, hein, la France outre-mer, quand tu aimes les chiens, tu les aimes aussi avec leurs puces. Bon, autre chose. Donc, on n'aime pas forcément les puces, mais les chiens, ils ont aussi des puces. Ben alors, mais c'est le chien, ça fait partie du chien. Bon, après, ça se soigne, bon, bref. Bon. Donc, quand rien ne va, on se tourne vers le gouvernement. Et on voit dans cette histoire que la solution, le début de la solution, c'est Dieu qui le donne, qui apporte la solution. Mais Dieu va utiliser un jeune garçon. Pas André, ni Philippe, ni Pierre. Ni, comme disent les Américains, Bishop Jean, qui a reçu l'Apocalypse, ni Pierre, tout ça. Non, un jeune garçon. Le gars, il s'est préparé son casse-croûte pour, voilà, pour manger. Et là, il se retrouve à être bourré, en fait, donne ton repas. Bon, bon, pas comme ça, mais bon. En fait, il va trouver un jeune garçon qui va. Par son repas, Dieu va nourrir plus de 5 000 personnes. À compter, on va dire, ils ont à peu près 10 000. Sans compter les femmes et les enfants. Et voilà. 15 000 à peu près. En fait, c'est ça. Dieu se sert de qui il veut, quand il veut, où il veut, pour bénir son église. Parfois, on arrive dans une assemblée, on se dit, oui, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. C'est vrai. Tout ce que tu dis, c'est juste. Mais si ça se trouve, c'est toi que Dieu veut utiliser pour changer ça. Mais si on se comporte comme en France, bon, c'est la faute à Macron. Sauf que, bon, je fais pas de plaidoyer pour Macron, donc pas de lance-pierre. Sauf que le résultat, la souffrance dans le pays, c'est pas que Macron qui est responsable. Louis XVI, quand le peuple s'est révolté, mais Louis XVI, il a fait les frais, mais ce n'était pas un mauvais roi. Hein. Il s'est fait, ouais, vous êtes d'accord? Mais il a fait les frais. Il y avait une souffrance, la révolte, mais sauf que quand le peuple se révolte, et il se tourne vers celui qui est. Ah ben c'était lui. Il va faire les frais. Sauf que voilà, on se tourne vite. Faire qui? Mais c'est lui. Bon, c'est vrai que bon, il y a des choses aussi, il n'est pas irréprochable. Mais en fait, c'est pas, il n'est pas vraiment celui qui crée toute cette souffrance, en fait. Maintenant, il arrive au moment où les gens, ils en ont marre. Pour dire quoi? Pour revenir à nos moutons ou à nos chevaux. Ou nos poneys. En fait, oui, parfois, Dieu, en fait, Dieu se sert de qui il veut. Et c'est pas forcément la solution ne vient pas toujours des responsables de l'Église. La solution est au milieu de nous. Et au milieu de nous, il n'y a pas que les responsables, il y a tout le monde. Quelqu'un qui est venu écouter une prédication, il se dit, ouais. Bon, je caricature un peu, qui dit, oh, vraiment, je suis vraiment pas bien là et tout, je vais écouter une prédication qui va me requinquer parce que ma semaine a été vraiment difficile. Et là, tout d'un coup, tu amènes ton casse-cou, tu dis, bon, vraiment, ça a été dur ce matin, je m'amène un petit truc là pour me faire du bien. Avec la prédication, j'ai de quoi. Voilà, tout d'un coup, tu te retrouves au centre d'un problème dont, enfin, tu es le début de la solution. Chacun doit réaliser que nous avons un rôle important dans l'Église et que la solution dépend de nous tous. Bon, quand on aura la salle, on sera tous propriétaires. Mais dans une location, bon, on est colocataires. Hein, vous comprenez, on est tous colocataires, donc chacun de part sa cotisation, son offrande, on paye la salle. Donc, ce n'est pas une affaire de la dernière hein, qui vient la trésorière. Non. En fait, c'est une affaire de tous. Il utilise un jeune garçon. Et on a tort aussi de dire, oui, bon, mais l'âge, Dieu utilise un jeune garçon, en fait. Qu'il, au départ, il vient, il ne sait même pas pourquoi, mais Dieu sait pourquoi il a fait venir. Parce que c'est Dieu qui dirige notre vie, en fait. Dieu contrôle toute chose. Il n'y a rien qui échappe à son contrôle. Parfois, Dieu nous amène des endroits pour qu'on soit le début d'une solution. La solution, c'est lui. C'est lui qui donne la solution. Mais il utilise ce qu'il veut. Pour, bon, si j'allais dire pour amener un changement, mais bon, ça peut ressembler à une campagne politique, pour faire le début de quelque chose. Face à une impossibilité, nous devons nous tourner vers Dieu. Et la réponse peut venir de n'importe où. OK? Chacun a un rôle. Et il ne faut pas qu'on se dise, bon, ça, c'est pas mon affaire. Hein? Si, si, c'est ton affaire. Ils n'ont qu'à faire. Non, non, nous, on est tous embarqués, on est tous dans le même bateau. L'Église, c'est une affaire de tous. Et Moïse était un très bon leader, mais n'empêche pas que Jéthro, qui avait une certaine vision de l'organisation, puisse lui dire, Moïse, franchement, la façon dont tu fais, non seulement tu vas te fatiguer, mais tu vas aussi fatiguer le peuple. Mets des responsables un peu hein, sur chaque hein, pour gérer les affaires avec toi. Sinon, tu vas te fatiguer. Tu es un homme, en fait. ce que tu fais, du matin, du lever du soleil jusqu'à son couchant, tu plaides les affaires, tu intercèdes, oui. Bon, c'est clair que Moïse, il n'était pas aux 35 heures. Parce que vu le peuple qu'il avait. Mais Jéthro lui donne un conseil. En fait, c'est, des fois, on a. Dieu nous donne cette clairvoyance pour savoir organiser les choses. En fait, c'est important de mettre notre main à la pâte. Pas forcément. On peut avoir un leader, il a juste la pensée. Il est bon leader, il sait bien diriger les choses. Mais en termes d'organisation, oui, il est pas bon. Donc, il a besoin des gens à côté de lui qui lui disent, bon, ton idée là, c'est bien, mais je pense que pour atteindre les objectifs, pour arriver à tel, il faut mieux faire comme ça. Dans les, dans les groupes, dans certains groupes, enfin, les entreprises commerciales, il y a ce qu'on appelle le PAC, pas la politique agricole commune, hein, plan d'action commerciale. En fait, souvent, c'est fait par des gens qui sont dans des bureaux et qui n'ont aucune connaissance du terrain. Ils font leur truc, et mais sur le terrain, il faut que ça soit appliqué. Mais on a besoin de personnes qui connaissent le terrain. Donc c'est ça, le leader, il a quelque chose, Dieu lui donne son truc, c'est de l'idée. Mais il n'a pas forcément les compétences pour l'organisation. Mais ça, c'est aussi, c'est Dieu qui crée cela. Pourquoi? Pour montrer que l'Église, c'est une affaire de tous. Montesquieu disait, trop de pouvoir, enfin, un roi qui a concentre trop de pouvoir, c'est pas bon pour le, hein, c'est pas bon pour le peuple, en fait. Il finira par abuser. Bon, on nous a appris ça à la fac, mais bon. Sauf que Montesquieu, il voulait juste que le roi partage son pouvoir avec l'aristocratie, pas avec le peuple, comme on connaît aujourd'hui. Mais en fait, il fait un constat, oui, en fait, trop de pouvoir. Et on le dit, cet adage populaire, trop de pouvoir tue le pouvoir. On ne peut pas concentrer. Et Dieu veut qu'on travaille ensemble. Ok? Je sais construire. L'autre dit, j'ai le terrain. L'autre dit, voilà, moi j'ai la quincaillerie. Donc c'est bon. On peut faire. Et l'autre dit, bon, c'est bon, moi j'ai les bennes, je peux vous faire ça. En fait, c'est ensemble. L'Église, c'est une affaire de tous. Chacun doit trouver sa place pour qu'on puisse avancer. Et on doit prier les uns pour les autres. Soutenir Todd et Terry, soutenir la mère Brigitte et le père Daniel. En fait, c'est ça. C'est vraiment important, en fait, qu'on réalise ça. Et ça nous amène à un troisième point. Je crois que je vais finir, hein. Je vais peut-être pas faire tout. Je finis le troisième point. En fait, ça nous amène à l'obéissance. Ah non, c'est pas ça. Ça, c'est trop rapide. L'obéissance, Jésus dit, faites asseoir ces gens. L'obéissance. Les disciples vont faire asseoir les gens. Bon, on sait pas trop ce qu'on va manger, mais asseyez-vous. Hein, asseyez-vous. Ça arrive. Bon. Asseyez-vous, il a passé commande, le livreur va arriver. Donc, asseyez-vous. On ne sait pas trop comment, hein, mais faites asseoir ces gens. Donc, les disciples. Parfois, Dieu nous demande de faire des choses un peu folles. Mais nous devons être obéissants. Faites asseoir ces gens. Et la Bible nous dit qu'ils se sont assis, Jésus a rendu grâce, la multiplication est venue. Enfin bon, on pourrait dire d'où, on sait, puisque c'est Dieu qui a multiplié. Mais, en fait, on voit l'intervention de Dieu. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dieu demande, nous demande de lui faire confiance. On ne comprend pas toujours tout, et on ne comprendra pas toujours tout, mais nous devons faire asseoir les gens. Comment, qui va les nourrir? Ça, c'est pas notre job. Seigneur, c'est ton job. Moi, je les fais asseoir maintenant, nourris-les. Si vous voulez régler vos histoires, voyez Dieu. Moi, je suis juste. Voilà, faites asseoir les gens. Et la Bible nous dit, tous ceux qui étaient assis ont mangé. C'est pas s'il y en a qui sont restés debout. Mais la Bible dit, tous ceux qui étaient assis ont mangé. L'obéissance. Des fois, voilà, si il nous dit ça ne sert à rien de dire j'aime Dieu si on n'est pas obéissant, en fait. Nous devons marcher dans l'obéissance. Faites asseoir ces gens. Et les gens ont mangé. Au départ, ce n'était pas gagné. Mais Dieu, lui, sait ce qu'il fait. Il nous conduit là où il veut, quand il veut. L'obéissance est nécessaire. Et c'est important pour nous. Et la Bible nous dit à la fin, les gens, ils ont été tellement contents, ils ont tellement bien mangé, ils ont voulu, ils voulaient venir chercher Jésus pour le faire roi. La Bible dit, Jésus s'est retiré, hein, il est passé à travers. Hein? Venir l'enlever pour le jour. Il se retira de nouveau sur la montagne. Pourquoi? Parce que Jésus, c'est le roi d'Israël, c'est le roi. Mais ce n'était pas le temps. Dieu a un temps pour toute chose. Et Jésus connaissait le temps. Et que ce n'était pas le temps pour lui d'être roi. Le temps viendra, où il reviendra, il sera roi à Jérusalem. Mais ce n'était pas encore le moment. Et la Bible nous dit qu'il s'est retiré. Nous devons aussi savoir qu'il y a un temps pour toute chose, avoir du discernement. Le temps de Dieu, ce n'est pas notre temps. Parfois, nous sommes sollicités par la foule, par la pression sociétale, pour faire des choses, sauf que ce n'est pas le moment. Ça ne veut pas dire que Dieu ne fera pas. Jésus, on voit à la fin de l'histoire, dans la Bible, il revient, il est roi. Mais là, il était venu en tant que Jésus souffrant, le Messie souffrant, l'agneau qui vient mourir pour les péchés. Donc nous aussi, nous devons prier pour avoir du discernement. Face aux sollicitations du monde, quelle est la volonté de Dieu? Et si ce n'est pas ça, se retirer. Et j'en ai fini. Je vais juste. Tu peux afficher. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir sur sa décision. Ce qu'il dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'accomplira-t-il pas? C'est une très bonne promesse, à savoir que ce que Dieu nous promet, avec la multiplication des pains, les gens se sont assis, ils ont mangé. Dieu, ce qu'il nous promet, il le fera. Je ne sais pas ce que Dieu nous a promis, mais ce qui est sûr, c'est qu'il fera. Quand? Ça, c'est une autre question. C'est un autre message. Que Dieu vous bénisse. On va se lever, on va prier. L'heure est avancée, donc je vais juste inviter Todd à prier, même si Todd est un peu fatigué, à prier pour nous, hein, et nous aussi à prier pour Todd, et nous avons fini. Et que Dieu vous fortifie dans votre marche, que Dieu vous renouvelle dans votre corps, et que Dieu fortifie la foi de quelqu'un ce matin, que Dieu vous remplisse de son esprit.